2013, Jean-Michel Dian rencontrait Michel Rocard. Ce soir, l'affranchissement paternel.
Cher Michel Rocard, vous aviez en 2005, devant ce même micro mais avec Laura Adler, déjà eu l'occasion de nous évoquer longuement votre parcours politique et intellectuel. Mais cette semaine, j'aimerais avec vous revenir sur votre vie, en essayant d'en extraire ce qui mérite d'être analysé, revisité, compris. Et peut-être en premier lieu cette part d'enfance qui vous reste, ces influences familiales, protestantes, idéologiques, qui ont tant déterminé votre carrière. Et alors qu'à la sortie de la guerre, vous veniez tout juste d'avoir 15 ans. Êtes-vous un nostalgique des grands débats, de cette grande effervescence intellectuelle et politique qui a eu lieu après la guerre ?
Nostalgique, je ne crois pas, parce que c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu une énorme activité intellectuelle qui tournait autour de comment retrouver la qualité de vie de l'avant-guerre, comment retrouver et construire la paix, mais qui ne mettait pas du tout en cause et qui n'intégrait pas vraiment le fait que commençait une période dans laquelle le monde allait changer de géographie, déjà. La Chine, on n'en parlait pas à ce moment-là, avait 2% du produit brut mondial, ça n'existait pas, l'Afrique à peine. Et les problèmes d'aujourd'hui sont radicalement différents. J'ai la nostalgie du goût de l'approfondissement intellectuel, du goût de comprendre. Mais je n'ai pas du tout celle des problèmes dont on s'occupait à cette époque. La faculté d'anticipation me paraissait petite. Or maintenant, si on veut être sérieux, il faut tout de même savoir que tout ce qui nous arrive d'essentiel se traite sur le demi-siècle. C'est vrai de l'effet de serre, c'est vrai du changement de domination du monde passant de l'Occident à l'Asie, et c'est vrai peut-être de la disparition du concept de guerre au sens classique, mais remplacé par une violence généralisée dans laquelle la délinquance confine au terrorisme. Et tout ça, c'est radicalement nouveau.
Alors si on revient un peu sur votre éducation, je disais tout à l'heure protestante, catholique aussi, puisque votre mère et votre père ont des éducations religieuses différentes, qu'est-ce qu'il vous reste de cette part d'enfance, de la guerre, puisque vous étiez enfant et préadolescent pendant cette dernière guerre mondiale ?
Comme pour tout enfant, je veux dire, l'enfance est complètement décisive, on l'oublie un peu trop. Bien sûr, mon éducation religieuse protestante, due à ma mère, m'a beaucoup marqué, on peut y revenir dans le détail. Il faut dire aussi au passage, pour ne plus beaucoup y revenir après, que dans cette période de défaite, de lâcheté, de dénonciation, de pourrissement, d'impuissance, le fait d'avoir un père au sommet du combat et au sommet de l'honneur, un immense résistant, en même temps qu'un très très grand savant, est une espèce de dignification que j'ai portée toute ma vie et qui m'a sûrement créé le besoin et l'envie d'avoir un destin à la hauteur de ce que j'ai reçu.
Mais vous n'avez pas forcément choisi de suivre la même voie.
J'ai assez vite compris que je n'avais pas reçu les mêmes dons de la nature et que si je voulais suivre ma voie à moi, il fallait explorer d'autres disciplines. J'étais nul en maths, comme on dit à l'époque, et donc incapable d'entrer dans la science. La science était le monde décisif. Ça continue d'ailleurs à être le lieu, l'activité qui change le monde. Et nous, les politiques, nous ne sommes que des accompagnateurs. On est bien rarement des créateurs. Et donc, à l'âge de 17 ans, 1947, juste après le Bachot, que je comprends que je n'ai pas les capacités de l'excellence en mathématiques, physique, sciences dures, et que donc, il vaut mieux aller chercher ailleurs. Même si ça crée un vrai conflit, en tout cas avec mon père. Un peu plus, ma mère était plus tolérante, elle n'était pas contente non plus.
Mais vous avez aussi, pendant cette guerre, vécu des pratiques, disons, culturelles ou socioculturelles un peu particulières. Vous avez été scout, vous avez été louveteau, vous avez pratiqué, j'allais dire, des activités parascolaires qui vous ont probablement aidé à comprendre le monde dans lequel vous étiez.
C'est Ça, c'est pas très sûr. D'abord, je sais pas pourquoi vous dites un peu particulière. Dans la moyenne bourgeoisie de l'époque, il y avait beaucoup de scouts. C'était pas très particulier. C'était simplement un style de mouvement de jeunesse. Je crois d'ailleurs me souvenir que dans ces années qui sont un peu celles de la guerre et beaucoup celles de l'après-guerre, il y avait beaucoup plus de monde dans les mouvements de jeunesse qu'il y en avait aujourd'hui. Et mouvements de jeunesse, ils étaient très variés. Une étrangeté, les éclaireurs unionistes de France, créés par l'Église réformée de France, mais comme mouvement d'évangélisation ouvert à tout le monde, au nom de l'Église et de la Bible, les jeunes chefs parlaient de Dieu à n'importe qui venait dans le mouvement. J'ai eu 3-4 musulmans, des fils de concierges arabes dans ma troupe, 5 ou 6 juifs et quelques catholiques. Ça crée quelque chose de très différent. La pratique était celle du jeu, celle de la nature aussi. Pour moi, ça a un petit peu fini dans un conflit. J'ai été 3 ans chef de troupe adjoint et 3 ans chef de troupe. Donc 6 ans de responsabilité. Et je me suis fatigué de la nature, des nœuds, de l'art de faire du feu et d'apprendre à faire la cuisine en plein air. Et j'ai voulu introduire une dimension plus moderne. J'ai par exemple remplacé une épreuve d'exploration de la nature et d'identification des arbres par l'art et la capacité de démonter et de remonter son vélo. Il y avait une épreuve nommée l'exploration où il fallait être capable de vivre 48 heures pleines de ce qu'on cueillait, de ce qu'on pouvait chasser, même au besoin, mais surtout de ce qu'on pouvait cueillir ou ramasser. C'était un apprentissage de débrouillardise. Mais moi, j'ai dans ma propre troupe remplacé ça par une expérience qui consistait à vivre 36 ou 48 heures dans un milieu professionnel déterminé, autre que le sien propre. Et un des plus rigolos, ils faisaient un petit récit, les garçons, après ça, en une page et demie, où ils le racontaient. Et le plus rigolo que j'ai reçu, c'est celui d'un garçon de 13 ou 14 ans qui avait réussi à se faire adopter par un oncle, je crois, qui a passé 48 heures à vivre avec les joueurs de foot pro, déjà. Et voilà la troupe entendant le récit, comment on vivait chez les joueurs de foot pro. Même chose avec les travailleurs du métro, etc., etc. Alors ça a très mal fini parce que les autorités de l'Église réformée de France ont trouvé que c'était pas bien, que c'était trop audacieux. Et tout ça devait déjà sentir, moi j'avais pas le mot dans la tête, la citoyenneté, peut-être même la gauche. Donc la politique. Alors dehors. Voilà comment ça a fini.
Mais c'est-à-dire que vous aviez le sentiment déjà de pouvoir peser sur l'évolution des comportements, de deviner qu'on pouvait, dans des micro-sociétés comme les scouts, changer...
Je ne suis pas sûr que j'avais à ce moment-là la prétention de vouloir peser.
Mais vous voyez que c'était
possible. Ma prétention de l'époque, c'était de comprendre, déjà, d'observer, de s'intégrer, de participer. C'est pas la même chose. Et c'est plus modeste.
Vous aviez deviné quand même une capacité d'imagination qui vous caractérisait déjà à l'époque?
On peut probablement dire ça, mais la vérité, c'est que l'imagination, il faut lui fournir des matériaux. C'est beaucoup de travail, beaucoup de lecture. J'ai inventé des jeux qui découlaient de guérillas, de bagarres, d'écrites, jusqu'à Jacques London, tiens, par exemple, je ne le sais plus. Quels étaient mes inspirateurs, il y en avait tous ordres. Et puis, au mi-mai, quelques-unes des conditions d'affrontement de troupes et de paysages et de nature, dont l'image nous venait de la guerre.
Comment votre père, à cette époque-là, juste après l'après-guerre, voyait votre avenir, malgré le fait de constater que ce n'était pas les mathématiques qui vous comblaient? Est-ce qu'il avait une ambition pour vous et laquelle?
C'est assez difficile à... Si, il avait visiblement une ambition pour moi... Simplement parce que j'étais non seulement son fils à lui, mais le fils à travers lui d'un très glorieux scientifique. Qui n'est jamais entré à l'Académie des sciences où il était robustement battu parce qu'il était trop proche des militaires. Il avait trop travaillé pour les armées.
On peut rappeler pour nos auditeurs que votre père a failli être prix Nobel de physique. Il a raté, vous le dites vous-même, à une équation près.
Il a raté une équation sur la problématique de diffusion de la lumière dans les liquides. Mais mon père a dirigé pendant 27 ans... le laboratoire de physique de l'École normale supérieure, où il a accompagné dans leur démarche au moins 2 prix Nobel, dont Alfred Kastler, et je crois bien que le second était Philippe de Gennes, il me semble. C'est aussi par le canal de ses amitiés que j'ai fait la connaissance de Charpak, qui vers la fin de sa propre vie me parrainait un peu en m'engueulant profondément et brutalement pour l'inutilité des politiques et leur capacité de servir vraiment à quelque chose. C'était un numéro Charpak.
Juste un mot sur votre père. Quelle responsabilité a-t-il dans la construction, la conception et la construction de la bombe atomique ?
Je ne le sais pas exactement, c'est pas à moi de répondre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est dès 1945, sinon fin de 44, que démobilisé, il est nommé directeur du laboratoire de physique de l'école normale, et prend donc le commandement d'une masse de jeunes physiciens qu'il faut affecter selon des disciplines, les ondes, les vibrations, les oscillateurs, et il se lance dans la physique nucléaire. Et dès 1946, il entre au comité directeur du commissariat à l'énergie atomique. Et il est certainement dans les tout premiers, les deux ou trois premiers, concepteurs de la bombe possible. Donc mon père entre très tôt dans l'équipe de personnes qui vont mettre au point intellectuellement le mécanisme. À l'intérieur du commissariat, ça finira par une bataille de méthode entre lui et le responsable du programme militaire, un général, le général Buchalet. Il va décider de rester membre du commissariat à l'énergie atomique, mais de se séparer la partie administrative du commissariat qui va la fabriquer, la bombe, par des accords sur la manière de faire. Et du coup, il va se lancer dans des recherches privées et surtout dans la construction, la mise au point du service qui va faire la mesure et l'évaluation de la puissance des essais. Une bombe susceptible d'être mise en service sans l'évaluer, la mesurer, il faut un service pour ça. Alors ce service aura une gloire infinie, puisque quelques années après, c'est lui qui, avant même les Américains, va être capable de détecter et de mesurer la puissance de la première bombe chinoise. Colère et jalousie américaine, mais c'est le service français. Et ce service existe toujours. Alors mon père, lui, m'imaginait dans le même genre de destin. C'est un vrai créateur, un vrai chercheur, mais c'était un fantastique physicien expérimentateur. Et il a commencé à désespérer de moi dès qu'il s'est aperçu que je n'étais pas très bon en maths. Bon. Et en plus, le couple de mes parents marchait très mal, ils se parlaient peu, mon père fuyait beaucoup, passait ses dimanches dans son labo, et par conséquent, il a construit la vision que j'avais trop dépendu de ma mère, que j'avais été fabriqué par ma mère. Et quand il me voyait aller dans les bois, boy scout, rentrer en culotte courte avec un grand chapeau et des gosses sales, il me disait « tu bêtifies ». Le courant ne passait guère.
À quel moment vous avez annoncé ou raconté à vos parents que vous engagiez dans une voie, disons, plus classique, Sciences Po, ENA, à partir de 1947? Est-ce que vous lui avez annoncé à votre père votre décision?
Mon père, que je voyais au fond assez peu, était assez raide. En plus, il était sourd comme un pot, lui, du fait d'une scarlatine qui, quand il avait 5 ans, lui avait démoli les deux tympans. Non appareillé, tout le temps sourd. Ça ne facilite pas non plus la conversation familiale. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'échanges. De ma part, une formidable admiration, bien entendu. 2 ans de résistance, puis 2 ans, en fait, patron des forces électroniques, des premiers radars, des forces navales françaises libres, à Londres, donc 2 ans d'absence de la maison. Et lui, dont la surdité l'avait fait réformer, il n'avait jamais fait de service militaire, ne connaissait pas l'armée, détestait les militaires pour des raisons de mode de vie et d'organisation. La première fois que je l'ai revu en août 44, à la Libération, il était splendide, dans un très bel uniforme d'officier de marine. Sidérant. Avec 5 galons, s'il vous plaît, il est devenu ingénieur général peu après du génie maritime. Mais il a décidé peu de choses. La première, une décision extrêmement favorable dont je lui rencontre tous les jours, c'est 2 étés en Angleterre. Ce fut absolument inouï. Et les 2 étés en question sont 46 et 47. Donc j'ai 16 ans et j'approche de 17 ans. Et ce fut absolument fabuleux parce que j'ai été reçu par une succession de familles britanniques. Et c'était les familles des membres qu'il a bien connus du comité britannique de la guerre secrète.
Qu'est-ce que c'est que
ça? Il y avait un homme, Norman il s'appelait, qui était leur génie de l'interprétariat, de la compréhension de l'allemand. il était totalement bilingue jusqu'à l'argot. C'est lui qui était organisateur des écoutes, des sous-mariniers, téléphones, des avions, etc. Puis quelques autres, un professeur Smith et le patron, un professeur Jones, des physiciens. Nous sommes dans le combat de la guerre des ondes, le combat autour de l'uranium de l'eau lourde. Vous savez sans doute que c'est ce comité de la guerre secrète qui a en fait gagné la guerre. Les troupes ne sont venues qu'après. Juin 40, l'Allemagne a tout gagné. Il ne reste plus que l'Angleterre. Le chef de l'armée de l'air allemande, un maréchal Göring, qui incidemment est probablement, quand il était capitaine aviateur, le type qui a abattu mon grand-père, officier pilote, en 1918. Bref, Göring, il est chef de la Luftwaffe, de la force aérienne allemande. Ils ont 1500 ou 1600 bombardiers. Les Anglais doivent avoir 40 ou 50 petits chasseurs Spitfire. Göring calcule. J'envoie des bombardements tous les jours. J'en perds 2% à chaque vol parce que tout de même, les chasseurs sont bons, c'est efficace. Il avait calculé qu'il lui fallait 4 mois de bombardements intensifs pour arriver à faire disparaître la chasse anglaise. Ce qui n'était pas dans le calcul allemand, c'est qu'une invention collective dans laquelle mon père est pour partie, qu'on va appeler le radar, a permis à ces extraordinaires pilotes anglais de Spitfire d'attendre le signal radar et de n'être en l'air, tous au complet, qu'à chaque vague. Et ça, Göring ne le savait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de bombardiers. Et qu'un beau jour du printemps 41, le bombardement aérien s'arrête. L'Allemagne a échoué dans sa conquête. Et tout le reste dépend de là. La Grande-Bretagne va tirer le temps que les États-Unis viennent à la guerre, et ils n'y viennent d'ailleurs que parce qu'ils sont agressés à Pearl Harbor, etc., etc. Donc ce comité de la guerre secrète, c'est pas rien. Ce sont ces familles de génies, quelques-uns un peu fous furieux. Je me souviens de M. Smith, quand je suis allé passer des vacances sans lui, sa folie, sa joie, c'était au moment des moissons de tirer les lapins. Quand vous moissonnez le blé dans un champ, il y a le pain qui fuit partout, il les tirait au pistolet, ancien militaire, etc. C'était d'une drôlerie folle. Voilà le genre de gens, il y en avait 5 ou 6 comme ça, avec qui j'ai passé 2 fois de suite des étés, et j'y suis même devenu amoureux, de la fille du germaniste d'ailleurs. Et je suis devenu à peu près totalement bilingue franco-anglais, et ça ne m'a disparu que 50 ans plus tard, quand je suis devenu sourd, parce qu'avec la surdité, vous perdez la compréhension des langues les moins familières à votre cerveau. Voilà. En tout cas, ça fait une référence à la dignité, à l'honneur, puis une obéissance, et aussi une découverte des mécanismes de décision de mon père, brutaux, sec, sans discuter. Boum. Et 46. Je passe mon bac. Une mention assez bien. Comme j'avais eu déjà une mention assez bien à la sortie de la première. Pourquoi la mention assez bien? L'histoire, la philo, le français. Pas les maths ni la chimie, où j'étais très moyen. Même le dessin, d'ailleurs, m'avait tiré vers le haut. On regarde pas le sous-détail, il a la mention assez bien, ça suffit. Je suis inscrit en hippotope, comme on disait, c'est-à-dire en classe de mathématiques supérieures, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Tout ça dans l'idée qu'il fallait bien que je finisse à Polytechnique, si possible, ou sinon normal. Normal était trop gros pour être dans mes talents, mais Polytechnique, c'était quand même, aux étagères de mon père, le moins qu'on devait faire. Mon père appelait beaucoup un mot terrible de Georges Clemenceau en 1919. Vous voulez empêcher l'Allemagne de se relever, créez-y une école polytechnique. C'était une illusion terrible que mon père partageait à la moisson de belles cervelles que fait le concours d'entrée à l'IX pour en faire des administrateurs. Et pas beaucoup des chercheurs. Très peu des chercheurs. Les chercheurs, ça sortait plutôt de normal suivant. Enfin bref, je comprends que tout ça est hors de mes talents et de mes capacités. Je me suis bien gardé d'essayer de négocier avec mon père, il n'en était pas question. Et j'ai profité d'un moment où il était aux États-Unis, où à cette époque encore, on allait encore qu'en bateau. Donc c'est un long voyage, il y a une semaine à l'aller, une semaine au retour. Le temps d'y rester, il était parti pour 6 semaines. Et je suis allé m'inscrire à Sciences Po. Je ne sais pas très bien pourquoi, je venais d'avoir 17 ans. Probablement déjà, c'est le mot de politique dans le titre qui m'avait attiré.
Mais votre père était gaulliste, n'oublions pas de le rappeler. Pendant la guerre, la libération, l'engagement de votre père était du côté de De Gaulle.
Ah ouais, sa résistance est extraordinaire, puisque je l'ai appris bien après. Tout ce que je peux dire des deux premières années et demie de la guerre, c'est qu'il y avait souvent dans notre maison, nous habitions Paris, des visiteurs un peu bizarres, qui arrivaient le soir, qui ne se présentaient que par un prénom. Je me suis dit que c'était, on les revoyait pas. C'est étrange. Et puis, mon père fermait la porte derrière lui, personne ne savait rien. Puis, il s'en allait aussi discrètement qu'ils arrivaient, c'était assez fréquent. J'ai jamais rien su. Bien, bonjour, j'ai plus de père. Ça se passe à l'été 1943. Et ma mère m'a raconté un coup, comme quoi mon père était fatigué, ce qui d'ailleurs était vrai de toute façon, qu'il était allé se reposer en Corse, et qu'il avait été coincé en Corse, puisque les Alliés avaient débarqué en Corse à ce moment-là. En fait, c'était un baratin qui est devenu clair à mes yeux en écoutant à la maison Radio Londres, qu'un soir, ma mère s'est écrit « Ah ! Papa est à Londres et va bien !» Un message. C'était « Adolphe a retrouvé ses sabots », je ne sais pas bien, quelque chose comme ça. Alors ça parle à une cervelle de monde quand même. Bien. J'ai donc tout compris. Voilà pour la résistance. Et ensuite, à Londres, il a servi activement dans les forces navales françaises libres, où il a été d'abord le créateur, puis ensuite le patron de tous les services électroniques radar des forces navales françaises libres. Bon, enfin... Bref, mon père fut dur, pas vraiment chaleureux, très peu présent familialement, mais un exemple absolument formidable. Et puis cette édition géniale qui m'a rendu quasi bilingue et qui a beaucoup joué. À l'époque, personne ne parlait anglais, le 2%, bon, presque personne. Ça m'a beaucoup aidé dans toute la suite de ma vie politique notamment. Ça a été une arme même.
J'imagine.
Mais quand je suis allé m'inscrire à Sciences Po, je le lui ai écrit après l'avoir fait. J'ai reçu une réponse. T'es un imbécile. C'est une décision inacceptable. On en parle à mon retour. Point. Même pas de formule de politesse.
Terminé.
Alors, terminé. Au retour. Je l'accueille quand il rentre à la maison. Je me trouve dans l'appartement à ce moment-là. Il me fait entrer d'un signe de doigt dans son bureau, ferme la porte. Ça doit durer 2 minutes et demie ou 3, pas plus. T'es un con. Écoute, papa, c'est peut-être pas si simple. J'ai pas ton intelligence ou je sais pas l'appliquer là où tu travailles. Je suis pas un con. Tu es un con. De toute façon, le monde ne change qu'avec ceux qui le créent, les scientifiques, tous les autres n'ont jamais su que baratiner, le coordonner, le paralyser, l'empêcher de travailler. C'est ce que tu vas faire. Et donc, puisque tu renonces à servir à quelque chose, que tu vas être un oiseux, je te coupe les vivres. Mais je suis un personnage de la science, j'ai une vie publique, je peux pas te mettre sous les ponts, ça se verrait. Donc tu vas rester logé, nourri, blanchi, ici, à cause de ce qui est pour moi une contrainte sociale, mais pour t'acheter tes costumes, tes bouquins, ton matériel de cours, tu te débrouilles. Je te coupe les livres. Et puis quand même, je me levais, je partais, moi. Et puis quand même, d'abord t'es fauché, t'as plus d'argent. Résultat de la décision présidente. Donc, il va falloir que tu en trouves. Et puis, tu as besoin, devant l'échec où tu te trouves, tu as besoin d'apprendre quelque chose qui te résiste. Et puisque ça ne peut pas être la science, tu n'es pas capable, tu es trop con, ça ne peut être que la matière. Je t'embauche comme tourneur-fraiseur au laboratoire de l'École normale supérieure, payé au tarif syndical. C'était 60 centimes de l'heure à l'époque, au noir. J'ai donc été pendant 2 ans, à raison de 12-13 heures par semaine, ouvrier tourneur-fraiseur dans les sous-sols, les laboratoires de l'École normale supérieure qu'on aperçoit depuis la petite rue Laumont, qui est une annexe de la rue du... Alors c'est une aventure absolument inouïe, parce que d'abord, j'ai toujours quelques ronds de serviettes et quelques porte-couteaux que j'ai fabriqués dans des rouleaux d'aluminium à l'époque pour m'entraîner.
Que vous avez conservés ?
Je pense pouvoir les retrouver, oui, je crois bien les avoir conservés. Bah, j'y tiens, bien sûr. Mais surtout, j'avais un contremaître qui m'avait pris en charge. Fabuleux ouvrier, capable de tailler une demi-sphère dans un tube d'aluminium, au bout, avec un tour, c'est-à-dire des engins qui travaillent en longueur et en largeur, mais pas en arrondi. Inouï. Mais cet ouvrier et les tourneurs étaient de culture et d'ascendance trotskiste. Il avait été s'engager dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Il avait été communiste, il ne l'était plus. Colère contre l'appareil stalinien. C'était un militant ouvrier étonnant, et j'ai passé des centaines d'heures à l'entendre monologuer pour me raconter ce qui était, je n'ai découvert ça qu'après, l'histoire de France en noir et blanc au lieu d'être blanc et noir. Vous vous souvenez que le grand manuel qu'on a tous eu à l'école, c'était Malais et Isaac, les grands manuels d'histoire. C'est une histoire bourgeoise ou petite bourgeoise, c'est l'histoire de la France convenable, de la France aisée. L'histoire de la classe ouvrière, la commune, même la résistance, beaucoup plus ouvrière que patronale. Et l'histoire du Parti communiste, c'est le contraire, c'est ce qui n'est pas dans Malais et Isaac. C'est notamment la guerre d'Espagne. Et c'est cet ouvrier, professionnel de très haute qualification, du pétrole bien sûr, qui m'a fait sentir tout ça, et ça tient une place importante dans le fait que je suis devenu socialiste au milieu de tout ça.
C'est fabuleux.
Dans les années 47 et 48, dans les sous-sols de l'école supérieure.
Absolument.
Fabuleux.
Votre père n'avait pas conscience de vous engager sur une voie qui allait précisément amplifier votre vocation politique.
Ben, d'autant que ça a failli avoir la suite inverse, parce que ce contremaître, qui s'appelait M. Bertin, a au final dit à mon père, « Monsieur le professeur, je suis pas capable de juger de ça, si votre fils vaut quelque chose pour les études, mais alors j'aime mieux vous dire, comme tourneur, c'est un très bon. »
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Djian avec Michel Rocard, enregistrée en 2013. À voix nue. Réalisation Manouchak Fachaï, Céline Terce. Prise de son Frédéric Kérou. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.